Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence consacrée à la franchise et à la reconversion qu'elle peut offrir aux personnes qui sont déjà en poste ou qui cherchent à se reconvertir. Donc je m'appelle Rodolphe Atchadrouian, je suis journaliste pour un média internet qui s'appelle l'Observatoire de la franchise. Et pendant cette conférence d'une heure, nous allons donc évoquer ensemble toutes les possibilités que la franchise offre aux individus pour se reconvertir. En effet, donc, après une carrière de salarié, de nombreux Français souhaitent se mettre à leur compte et ils veulent quitter le salariat. Dans ce cas, il y a deux possibilités. Soit ils créent leur entreprise de toutes pièces, soit s'ils n'ont pas forcément l'expérience, ils peuvent rejoindre un réseau déjà établi comme une franchise qui leur donne en fait des clés d'entrée. Et c'est tout de même une création d'entreprise, mais assistée. Le système de la franchise ne cesse de progresser en France depuis de nombreuses années, comme nous avons parlé. Nous avons aujourd'hui 1834 réseaux précisément qui se développent en France, ce qui équivaut à peu près à 70 000 franchisés. Et le chiffre d'affaires, d'après les derniers relevés de la Fédération française de la franchise pour 2015, s'est établi à 53 milliards d'euros contre 54 en 2015 contre 53 en 2014. Tous les ans, donc, la Banque Populaire édite une enquête qui dit un petit peu de quels horizons viennent les franchisés. Il se trouve que 75% d'entre eux viennent du salariat. Alors la franchise, comment cela fonctionne? Combien ça coûte? Quels sont les profils recherchés par les franchiseurs? Nous avons autour de nous donc, un plateau constitué de franchiseurs de divers réseaux que je vais laisser se présenter. Donc pour commencer, nous avons donc Tanguy Marchand de Général des Services. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre enseigne pour débuter, s'il vous plaît?
Bonjour à tous, donc Tanguy Marchand, je suis responsable du développement pour le réseau Général des Services. Donc Général des Services est un acteur historique du marché des services à la personne créé en 1999. Nous sommes franchiseurs depuis 2008 et aujourd'hui nous comptons un réseau de 46 points de vente en France, donc un peu partout aux quatre coins de la France, avec un concept multispécialiste en service à la personne qui cible à la fois des actifs qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de faire les choses et qui souhaitent être assistés dans leur quotidien, et également des personnes âgées ou en situation de handicap qui là ont besoin d'accompagnement sur les actes de la vie quotidienne notamment.
Je vous remercie. Lionel Dindian, vous êtes vous-même vous êtes à la tête de Mailboxes, etc. Donc, quel est le concept de votre enseigne?
Bonjour, effectivement, Lionel Dindian, je suis directeur général de Mailboxes, etc. Mailboxes, etc. est un réseau de services qui existe, qui a été créé aux États-Unis il y a plus de 30 ans et qui existe en France depuis 4 ans. Donc on est spécialisé dans le service aux entreprises, mais également aux particuliers, mais à destination des entreprises, sur trois grandes activités, l'expédition nationale et internationale, l'impression et le graphisme, mais également la domiciliation et la location de boîtes postales. Et nous avons 26 centres aujourd'hui ouverts en France.
Laurence Potier-Caudron, vous êtes présidente du réseau Temporis. C'est un réseau qui compte près de 200 agences.
140,
n'allez pas trop vite, Rodolphe. On s'en approche petit à petit, près de 150 agences en France. Quel est le concept de l'enseigne et l'historique en résumé?
Donc en fait, moi je suis la fondatrice du réseau. J'ai créé ce réseau depuis la petite ville de Brive-la-Gaillarde en l'an 2000, en ayant l'idée de me dire que dans ce métier du travail temporaire et du recrutement, on aurait une offre nouvelle si on avait un réseau de patrons indépendants, franchisés, hyper impliqués, avec les moyens des grands groupes au travers d'une structure de franchise. Donc le réseau, c'est 140 unités ce matin. C'est également un réseau qui va faire en fin d'année 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et mes franchisés viennent de tout horizon. Donc j'en ai la moitié qui viennent du métier du travail temporaire. Mais on va le voir certainement au cours de cette conférence, un bon franchiseur doit être capable d'amener à son métier des gens qui n'en sont pas issus. Donc il y a dans mon réseau des profs vacataires, des personnes qui viennent, qui étaient directeurs de Leroy Merlin, des patrons d'univers chez Decathlon, des personnes qui venaient des RH, enfin des profils très différents. Et je suis assez contente parce que j'ai 42% de femmes franchisées, donc ce qui est pas mal.
Rosemary Moins, alors vous ne représentez pas une enseigne, mais vous représentez...
Je suis la seule, oui.
Voilà, la seule, qui représentait la Fédération française de la franchise. Donc, quel est votre rôle au sein de cette fédération?
Alors, moi, je représente effectivement la Fédération française de la franchise. Donc, c'est le réseau des réseaux, hein, comme on dit souvent. Donc, c'est une fédération qui existe depuis 40 ans maintenant, qui a des actions de fédération. C'est-à-dire qu'on est là pour faire évoluer le métier de la franchise dans son ensemble, le représenter, le professionnaliser. Et moi, plus particulièrement, je suis sur cet axe-là, puisque je m'occupe beaucoup de formation au sein de la fédération. On fait pas mal de formation pour les franchiseurs, pour les aider à mieux faire leur métier. Et je m'occupe de la promotion de la franchise en général auprès de porteurs de projets comme vous dans la salle. Voilà.
Et enfin, donc à votre droite, Régine Massé, qui est dirigée donc le réseau Shiva, qui est également des services à la personne. Quel est le concept et l'historique de votre enseigne pour débuter?
Alors, Shiva, ça a été créé en 2002 par le groupe Acadomia, qui est le plus ancien groupe dans les services à la personne. Nous sommes une enseigne très spécialiste. Acadomia, c'est tout ce qui est formation. Shiva, c'est la maison et l'entretien de la maison, avec un développement sur Shiva essentiellement en franchise, puisque nous avons aujourd'hui 130 agences et que sur les 130, il y en a 127 en franchise. Donc, alors je rebondis sur ce que Laurence disait, c'est qu'à chaque fois, on nous pose la question de savoir mais quel est le profil de vos franchisés. C'est impossible de répondre à ce genre de questions. C'est plus des personnalités, une envie, un souhait, et savoir que chaque fois que l'on nomme un franchisé, c'est une responsabilité pour la marque aussi. Donc il faut qu'on ait en face de nous des gens éclairés sur les risques aussi du métier d'entrepreneur, mais pas que les risques, les souhaits et tout le projet de vie qui va derrière. Donc, pas de profil type, mais vraiment un projet de vie pour chacun.
Alors, je vais vous laisser les paroles pour débuter. Comment est-ce que, enfin, quel conseil donneriez-vous à un candidat en fonction de l'univers duquel il vient? Est-ce que vous avez une formation qui est adaptée? Comment accueillez-vous les candidats en fait au sein de votre réseau?
On nous pose souvent la question de se dire, mais moi, j'y connais rien dans les services à la personne. Je parle pour moi, mais ça va certainement être valable pour toutes les autres activités. C'est pas un problème. De toute façon, on ne choisit pas une activité pour entreprendre en fonction de sa passion, pas obligatoirement, parce que quand vous créez une entreprise, c'est quand même pour qu'elle soit rentable à un moment donné. Vous devez gagner votre vie, hein, ça c'est important. Donc le conseil, c'est d'être éclairé, de rencontrer d'autres franchisés, enfin des franchisés, des marques que vous rencontrez, parce que quand vous allez entendre le franchiseur, tout peut être magnifique. Donc il faut aussi voir se confronter à la vraie vie d'un franchisé.
Oui, c'est un aspect important qui vient d'être souligné. En fait, il y a plusieurs... On parle de passion. D'abord, pour moi, dans les premières choses qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez très bien ne pas savoir ce que vous avez envie de faire, mais en tout cas, il va falloir aller vérifier chez le franchiseur que ce que vous allez faire au quotidien, le jour où vous serez vraiment franchisé, c'est quelque chose qui va vous plaire au quotidien. Parce que la réussite, elle est basée là-dessus. Moi, elle est basée sur l'envie, parce que ça, c'est certainement le déterminateur commun, l'envie de tous les jours se lever pour aller faire quelque chose qu'on aime faire. Alors, bien sûr, quand on a le côté passion, j'allais dire, même si c'est pas la passion d'un sport ou de choses comme ça, mais il faut quand même que son métier soit passionnant au quotidien. Et le résultat qui en découle, c'est comme on fait le métier qu'on aime dans un environnement qu'on aime, bah finalement on voit pas les journées passer et du coup économiquement ça devient très performant. Mais c'est dans ce sens-là que ça se passe. On ne doit jamais se poser la question de. Enfin, la première approche d'une franchise ne doit pas être uniquement financière, même si on est chez Zamboris une franchise qui rapporte. C'est pas par cet angle-là qu'il faut prendre la décision d'aller vers un réseau. Donc moi je dirais par rapport à ça, ce que vous avez dit exactement, privilégier des enseignes transparentes, c'est-à-dire des franchiseurs qui vont vous donner accès à beaucoup d'informations, des franchiseurs qui vont vous faire faire un parcours pour que vous vérifiez que le métier que vous voulez peut-être faire, il est bien fait pour vous. Donc c'est un premier contact avec le franchiseur, allez voir la structure franchiseur, regardez combien de personnes vont être à votre disposition quand vous allez être franchisé, parce que ça c'est aussi important, l'environnement autour de vous. Une fois que vous avez fait ça, Vous allez aller en journée découverte chez un autre franchisé. Vous allez ensuite, être en immersion dans l'enseigne. Et vous pouvez même faire une opération de lancement d'un nouveau franchisé, puisque c'est des choses qu'on met en œuvre chez nous. Ça vous permet de rencontrer 6 ou 7 franchisés et de voir quel est l'état d'esprit dans lequel est le réseau. Et ça, si on devait dire qu'une seule chose, allez vers des franchiseurs transparents. Vous avez des organismes indépendants, comme l'indicateur de la franchise, qui interview les franchisés. Hein, voilà. Et la Fédération française de la franchise.
Bien sûr,
qui peuvent vous donner des informations sur les franchiseurs. Mais vous voyez, par exemple, l'indicateur de la franchise, il n'y a que des franchiseurs qui sont transparents, qui acceptent qu'on interroge tous les ans leurs franchisés. Donc c'est un signe. Quand on y est, c'est qu'a priori, vous avez en face de vous un franchiseur transparent. Bien sûr, la Fédération française de la franchise est également une entité qui peut vous aider.
Oui, enfin, pour revenir là-dessus, nous, on a effectivement un nombre d'adhérents. On est une association, donc il y a 160 réseaux qui adhèrent à la Fédération. Il n'y a aucune obligation pour un réseau de se développer, d'être adhérent à la FFF. Hein. Ce n'est pas un passage obligé, c'est vraiment une volonté, même si nous, on est très heureux d'être le plus représentatif possible, bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux qui, puisque Laurence parlait de transparence, les réseaux qui veulent adhérer à la FFF doivent être transparents, parce que nous, on fait une forme d'audit, si vous voulez, de ce réseau, pour savoir s'il fonctionne bien, si contractuellement les choses sont conformes à la loi, si les franchisés sont heureux et satisfaits de leur choix et de leur vie. Donc ça passe par un processus, je dirais, avant que le conseil d'administration de la FFF décide d'accepter ou pas une enseigne. Donc c'est une forme de label de qualité aussi, un audit qui a été fait et qui vous donne une garantie supplémentaire. Après, je le dis parce que vous ne l'êtes pas, mais il y a des réseaux qui sont très bien et qui ne sont pas adhérents à la FFF, et puis ça, chacun voit ce qui l'intéresse le plus.
Merci de le dire.
Bien sûr, et je ne me permettrai pas de juger, puisqu'on les connaît moins bien, forcément, qu'on ne les côtoie pas tous les jours. Et puis pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à l'angle d'attaque du projet, c'est vrai que très très régulièrement, moi et la FFF en général, et ici sur des salons comme ceux-ci, on a toujours les mêmes questions. Alors dites-moi les réseaux qui sont rentables, dites-moi les secteurs qui fonctionnent. Et je réponds toujours, mais c'est pas la bonne question. La franchise, elle n'est pas en dehors de l'économie. Hein, la franchise, elle est dans l'économie réelle. Donc, si un secteur fonctionne, il fonctionnera en franchise. Si un secteur a un peu de mal, il est possible qu'il ait aussi un peu de mal en franchise. Et puis, la rentabilité, c'est le franchisé qui l'a fait, ce n'est pas le réseau. Le réseau, il met des outils à disposition du franchisé, et c'est le franchisé qui est capable de mettre en œuvre ces outils pour avoir une rentabilité derrière.
Et qui ne compte pas ses heures.
Donc, en allant voir les franchisés avec la transparence qu'on souligne et qui est indispensable, vous allez peut-être rencontrer des franchisés qui font des performances qui vont vous sembler tellement avec un écart tellement important entre les deux, que vous allez dire il y a un problème, c'est pas possible. Alors on va me dire oui mais c'est l'emplacement. Oui d'accord, ça peut être l'emplacement, mais il n'y a pas que l'emplacement. Donc c'est aussi la qualité de l'homme ou de la femme qui est aux manettes de l'entreprise qui fait la différence. Ils ont les mêmes outils mais ils les utilisent mieux les uns que les autres, et ça fait des différences de performance au sein des réseaux, et ça je pense que tous les franchiseurs sont là pour le dire.
Lionel Dignan, au sein de votre réseau, est-ce que vous accueillez des personnes qui viennent d'univers professionnel totalement différent ou connexes à votre activité?
Alors aujourd'hui sur 26 centres, on a des gens qui viennent de tout un tas de domaines, que ce soit de l'informatique, on a des gens qui viennent de la restauration, on a des gens qui viennent de la grande distribution. On a aussi certaines personnes qui viennent soit du métier de l'expédition et du transport, certaines viennent du métier du graphisme et de l'impression, mais je dirais que ce n'est pas une obligation pour nous, ce n'est pas forcément un plus. C'est plus facile pour eux de comprendre le métier et de comprendre les secteurs d'activité. S'ils étaient dans ce secteur auparavant, forcément, ils savent qu'ils sont sur un secteur porteur. Donc pour eux, je dirais que ce n'est pas l'étude de marché, mais en tout cas, ils ont déjà des notions qui sont beaucoup plus faciles pour pouvoir intégrer. Ils se posent moins de questions sur le marché. Par contre, ils vont se poser effectivement des questions sur le franchiseur, sur les franchisés, sur notre business model. Donc je pense que c'est là effectivement qu'il est important de pouvoir agir en toute transparence. Nous, dans notre parcours, on ouvre la porte de tous nos franchisés pour que les candidats puissent aller rencontrer des franchisés et discuter avec eux. Si je reviens juste sur un petit point, je pense que ce qui est important, il est important quand même d'avoir aussi effectivement de la passion pour pouvoir exercer son métier. Il y a deux choses, je pense, quand on va vers un secteur d'activité, c'est soit on a une passion dans ce métier-là, soit on a des compétences qu'on peut mettre à disposition de ce secteur d'activité ou de ce métier. Nous, dans notre cas, la plupart, je dirais, le profil commun, s'il y a un dénominateur commun, ce sont des gens qui ont touché de près ou de loin la petite entreprise, souvent, puisque ce sont nos clients, on travaille avec des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc, je dirais
sans pour autant avoir déjà été chef d'entreprise.
Sans pour autant avoir été chef d'entreprise. Mais je pense que lorsqu'on investit dans un réseau de franchise, c'est d'un côté faire confiance au franchiseur sur son savoir-faire, sur ce qu'il vous a apporté, mais également de mettre à disposition du franchiseur et de son propre business ses compétences, son expérience qu'on a eue dans les 10, 20, 30 dernières années.
Tanguy Marchand, un mot également sur les profils qui vous rejoignent. De quels univers viennent-ils généralement ?
Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Au sein de notre réseau, on n'a pas de CV type pour nos franchisés. On a vraiment des profils très différents. Par contre, ils ont tous, on va dire, des compétences communes qu'on recherche et qui sont transférables de leur ancien métier au nouveau métier de gestionnaire d'agence de service à la personne, qui sont des compétences managériales, commerciales et des compétences et des notions de gestion d'entreprise. Donc, finalement, un profil assez polyvalent. Ils ont également tous une sensibilité sur l'utilité sociale de nos entreprises. Ce sont souvent des personnes qui souhaitent donner ou redonner du sens à leur activité par rapport à peut-être leur ancien métier dans lequel ils ne se retrouvaient pas, en tout cas peut-être sur les valeurs.
D'accord. Alors ça c'est pour ce qu'ils ont, pour leur caractère. Après il y a tout le volet formation, puisque entrer dans une franchise c'est également transmettre de la part du franchiseur vers le franchisé des savoir-faire et un métier. Alors comment est-ce que vous accueillez ces franchisés ? Est-ce que la formation justement est modulée en fonction de l'univers de quel ils viennent ? Ou est-ce qu'il y a un tronc commun ? Comment est-ce que ça se passe ?
Alors pas du tout, on a une formation que doit suivre tout franchisé, même s'il est issu du secteur médico-social, mais c'est quand même assez peu souvent le cas. Donc au sein du réseau, on a une formation de 2 mois, une formation initiale assez longue, très complète, avec des modules de formation animés par l'équipe franchiseur et pas par des responsables de secteur, donc des gens qui vivent l'activité au quotidien. Ça se déroule dans une agence, donc c'est pas que de l'information descendante, et il y a de la mise en pratique, donc avec des modules très business sur la création du projet au départ, le prévisionnel, la recherche de locaux, la préparation des rendez-vous bancaires, à des modules vraiment axés sur nos savoir-faire et la gestion de nos métiers, qui se terminent par une semaine de stage en agence franchisée.
Régine Massé, en termes de formation, que proposez-vous aux personnes?
On a 4 semaines de formation initiale où on voit tous les process. C'est la transmission du savoir-faire du franchiseur vers le franchisé. C'est quand même l'objet du contrat, un des objets du contrat de franchise. Ensuite, c'est suivi juste avant l'ouverture en agence d'une semaine d'immersion totale où on passe à l'aspect complètement pratique. Et évidemment, il y a un accompagnement. On accompagne. C'est la définition aussi du franchiseur, du franchisé. C'est l'accompagnement, mais il est encore plus pointu sur les 6 premiers mois de l'ouverture de l'agence, parce que les 6 premiers mois sont cruciaux, puisque c'est là qu'on démarre tout. Donc dans la formation, c'est bien, on voit beaucoup de choses, et la mise en pratique ensuite pendant une semaine, c'est la révision de la formation, mais après le métier, tous les jours, c'est les 6 premiers mois, et là le franchisé est complètement accompagné par son responsable de région, qui est là pratiquement tout le temps, et s'il n'est pas là, c'est au téléphone, et il a toute l'équipe du franchiseur pratiquement à sa disposition. Les 6 premiers mois sont cruciaux, on découvre vraiment un nouveau métier, et quand vous ouvrez votre agence, vous aviez l'habitude, alors pour un ancien salarié, d'être entouré, service comme, et si, et ça, et là, vous ouvrez, vous vous retrouvez tout seul, donc l'accompagnement est crucial.
Tout seul, entre guillemets, c'est-à-dire que
Tout seul,
mais il y a tout de même un accompagnement justement.
Voilà. C'est vraiment important.
Dans un deuxième temps, donc peut-être je vais passer la parole à Laurence de Temporis. Il y a en effet cette formation initiale, mais par la suite, la franchise peut prêter son concours.
Oui, ce qui vient d'être souligné est très important, l'accompagnement de la première année. Parce que la moitié de nos franchisés sont complètement novices dans le métier. Donc il faut très vite, parce qu'on a envie d'avoir des franchisés heureux, que les franchisés passent leur seuil de renta. À partir de ce moment-là, ils se détendent. Ils ne nous posent plus les mêmes questions. Ils ne se disent pas « est-ce que je vais vivre ?» Ils se disent « tiens, quand est-ce que vous ouvrez à tel endroit ?» Donc, ce n'est plus les mêmes questions et on le voit vraiment très bien. Donc, l'idée, il y a plusieurs façons d'aider un franchisé au démarrage. Chez nous, c'est d'avoir une redevance la plus faible qui soit sur la première année pour qu'il puisse atteindre son seuil rapidement. C'est effectivement une formation. Donc, nous, un franchisé démarre à 3. Donc, c'est une formation d'1 mois pour 3 personnes. Moitié théorie, moitié pratique en agence. un accompagnement renforcé de 12 jours sur la première année, hein, avec une hotline permanente des services du siège. 36 personnes au service des franchisés, 4 animateurs sur le terrain. Donc, voilà, on fait toutes les premières fois ensemble et on fait aussi quelque chose dans notre réseau que les franchisés aiment tellement qu'ils font, ils le rééditent. C'est l'opération de lancement qui s'appelle Temporis Première. Donc, au bout d'un mois d'ouverture, tous les franchisés des zones environnantes viennent donner un coup de main aux franchisés qui se lancent. Donc, cette journée-là, c'est à peu près 100-120 entreprises qui vont être démarchées. C'est à peu près le boulot d'un franchisé pendant un mois et demi. Donc, ça donne un bon coup de fouet sur le démarrage. Donc, ça, c'est. Et en fait, les franchisés trouvent ça tellement chouette qu'après, ils nous réclament des temporises deuxième, des temporises troisième. Donc, quand les franchisés reprennent une idée du franchiseur, on peut dire que l'idée n'était pas mal.
Lionel Dinger, sur cet aspect accompagnement, qu'offrez-vous aux franchisés qui vous rejoignent ?
Alors, nous, au niveau de la formation, on a une formation qui est relativement longue, qui dure 7 semaines. D'abord, on a plusieurs phases. On a une première journée, ce qu'on appelle de pré-formation, qui est avant que le franchisé ait trouvé son local, son business plan. Donc, on va l'accompagner pendant une journée, vraiment pour lui donner toutes les bases avant de pouvoir démarrer son local. Donc, on va lui donner 3 éléments essentiels pour nous, qui sont le business plan, le travail sur je recherche mon local et quels sont les outils, et le troisième, c'est qui recruter et comment recruter. Nous, on démarre à 2 personnes. Une fois qu'on démarre la formation, on a 7 semaines de formation avec une semaine de découverte dans un centre où le franchisé il va vraiment travailler et commencer à intégrer les outils. 3 semaines de formation théorique et pratique au siège du réseau, et ensuite 2 semaines de formation également en immersion complète chez un franchisé ou dans notre centre pilote. Et on termine par une dernière semaine de formation complète à l'ouverture dans le centre même du franchisé. Après, on a développé un certain nombre de modules, on a une plateforme en ligne de formation pour les franchisés, parce qu'après 8 semaines de formation, ils ont oublié beaucoup de choses parce que c'est assez dense.
75%.
Voilà. Et c'est dense. Et je dirais que dans la formation, on va les former sur notre métier, mais on les forme aussi à devenir entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on va les former sur la finance, on va les former sur le marketing, sur le management. Même s'ils ont des compétences, on est, pour tous les franchisés, on est sur le même module de formation. Et ensuite, on utilise tout ce qui est formation en ligne, vidéo, pour que les franchisés puissent retrouver facilement et aisément toutes les informations diffusées pendant ces 7 semaines.
Tanguy Marchand, sur cet aspect accompagnement, donc après la formation initiale, comment est-ce que vous accompagnez vos franchisés vous-même ?
Alors, après la formation initiale...
Oui, ça fonctionne.
Après la formation initiale, on a un accompagnement terrain d'un animateur réseau donc pendant 10 jours sur les 3 premiers mois de l'ouverture. Qui vient en agence assister le nouveau franchisé dans l'ouverture et sur des problématiques liées à son ouverture, de génération de demandes clients et de recrutement de salariés. Et ensuite, le franchisé a accès à une hotline, comme ce que disait tout à l'heure Madame du réseau Temporis, où chaque personne responsable de l'équipe franchiseur sur un sujet précis, que ce soit la gestion administrative, financière, le recrutement, le marketing, qui va pouvoir l'assister et mettre en place des nouvelles actions dans son agence. Donc il y a une vie du réseau également qui est assez riche, avec des séminaires trimestriels, une convention biannuelle et des réunions régionales qui permettent de faire de la formation continue auprès des franchisés sur des petits groupes de travail.
Rosemarie Moins, alors vous-même vous n'êtes pas représentant d'un réseau, mais non. Vous faites également beaucoup de formations. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que vous offrez au sein de la FFF, alors à l'intention des candidats, des franchiseurs, des franchisés?
Alors on a deux publics. On a un public de futurs franchisés, donc des gens qui se posent la question d'investir et de s'investir en franchise. Et pour ces personnes-là, on fait une formation qu'on appelle Devenir franchisé, tout simplement, où on explique vraiment dans le détail de A à Z comment se construit un système de franchise, quels sont les droits, les obligations d'un franchisé et d'un franchiseur, à quoi ils doivent s'attendre, on vient de parler d'accompagnement, etc., mais à quoi ils doivent s'attendre de la part du franchiseur, qu'est-ce qu'ils doivent retrouver dans la structure franchiseur, donc ça c'est plutôt les obligations du franchiseur, mais quelles sont leurs obligations à eux aussi, hein, on en parlera, mais il y en a des deux côtés. Donc on décrypte complètement le système, on parle aussi du cadre légal, de la loi Dubin, du contrat précontractuel, enfin du document précontractuel, et puis de la démarche, voilà, à à faire, les réflexions à avoir, les écueils à éviter pour faire le bon choix du réseau, en tout cas choisir le réseau qui convient le mieux à la personne. Il n'y a pas le bon réseau dans l'absolu, mais c'est un réseau qui vous convient. Et puis pour les franchiseurs, c'est différent. Là, on s'adresse aux têtes de réseau, donc aux franchiseurs, il y a leurs équipes, et on est là capable de leur proposer des stages de formation qui vont de comment je crée, comment je développe un réseau, jusqu'à l'animation de réseau, le métier d'animateur, le métier de développeur, le droit de la franchise, la lecture de bilan. Enfin bon, voilà, c'est très très large, c'est pluriel, et ça permet aux franchiseurs, parce que c'est un vrai métier d'être franchiseur, on le dit souvent, mais on le constate tous les jours, je crois, de monter en compétences et de former leur tête de réseau, leurs salariés, pour être mieux, je dirais, plus efficace, plus pertinent dans la relation avec les franchisés, ce qui est quand même le cœur du sujet, comment je communique au mieux pour que tout le monde aille dans le même sens et poursuive le même objectif.
Alors, vous n'avez pas tous le même secteur d'activité, donc j'aimerais qu'on en vienne au local, parce que souvent quand on se reconvertit, on vient du salariat, on n'a forcément pas de magasin, contrairement à des commerçants. En fonction de vos concepts, est-ce que vous pouvez apporter des conseils, voire une aide à la recherche du local, voire des reprises de magasins existants? Est-ce que, alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce sujet.
En fait, le local est clé. Donc, c'est un sujet, évidemment, c'est aux franchisés de chercher son local, mais nous, on se déplace avec lui. C'est-à-dire qu'on définit un secteur, un territoire, avec le candidat en fonction de ses souhaits, des disponibilités. Et ensuite, on se déplace sur le territoire avec lui pour déterminer le meilleur endroit pour installer sa boutique. Ensuite, on se redéplace avec lui pour vraiment valider, en dernier ressort, le local qui va représenter la marque Shiva. C'est clé, hein. On a évidemment, avec plusieurs années d'antériorité, on sait pertinemment, Rosemary disait tout à l'heure, qu'une vitrine mal placée, c'est un loyer que l'on paye pour rien. Et c'est un vecteur essentiel de communication au niveau local, la vitrine.
D'accord. Y compris pour dans nous, les services.
Hein. Là, je parle de notre activité, ouais. Bien sûr. Hein.
C'est le cas dans les services.
Y compris dans les services, ouais. Complètement. Parce que souvent, on pense que l'emplacement, c'est les franchises, ouais. Qui sont liées à la grande distribution. Mais effectivement, il faut avoir conscience qu'une vitrine, c'est, moi je dis souvent, c'est selon la taille de la vitrine, c'est 2 ou 3, 4 par 3 permanents vous avez sur votre ville.
Et c'est vrai que quand on démarre comme ça dans la franchise ou dans l'activité, on se dit, ah oui, mais là, je vais payer que 700€ de loyer par rapport à 1300. Oui, mais attention, le pas cher revient cher, c'est ce que je dis toujours. Et il vaut mieux des fois investir un peu plus, parce que c'est un vrai investissement. Pas une charge, il ne faut pas le voir comme ça. Et derrière, ça va économiser des 4 par 3, etc., etc. Voilà. Mais là, je parle pour les services.
Oui, et l'emplacement, il s'inscrit dans la stratégie cross-canal. C'est-à-dire qu'en fait, la communication d'un franchisé, elle se fait par différents moyens. Elle va se faire par la vitrine, elle va se faire aussi par la vitrine digitale. Donc en fait, aujourd'hui, il faut vraiment que vous fassiez bien attention à ça quand vous choisissez un franchiseur. Quelle est la stratégie digitale du franchiseur? Parce que le digital, on est dedans et demain, on sera en plein dedans. Donc ça fait partie, à mon sens aussi, des choses que doivent mettre en place des franchiseurs qui s'inscrivent, j'allais dire, dans la durée, parce que on ne peut pas développer un réseau sans tenir compte de son environnement. Donc plutôt que de se dire c'est quoi le secteur qui marche bien, ce qu'on disait tout à l'heure, en ce moment, qui rapporte, ou quelle est la franchise à la mode, c'est peut-être pas la meilleure façon de trouver une bonne franchise, c'est peut-être plutôt quelle est la franchise qui se développe durablement et toujours. Voilà. Ça, c'est certainement un bon signe quand on cherche un franchiseur. Donc, stratégie cross-canal, effectivement, l'emplacement, ça en fait partie.
Et du coup, c'est vraiment l'intérêt de vérifier quand vous êtes candidat l'accompagnement que vous propose le franchiseur pour le choix vraiment du local ou de l'autre manière de distribuer en fonction de l'activité. Si ce n'est pas le franchiseur qui valide, c'est peut-être que l'accompagnement ultérieur ne sera pas exceptionnel ou ne sera pas celui dont vous avez besoin. Alors moi, je parle beaucoup plus d'accompagnement parce que notre métier, c'est quand même de vous rendre à un moment donné aussi autonome en tant que chef d'entreprise. Donc, je parle beaucoup plus d'accompagnement. Voilà.
Lionel Dingean, en termes de locaux, que recherchez-vous, quels emplacements et comment est-ce que vous aidez vos franchisés à localiser les bons locaux?
Alors, je dirais que nous, on est un petit peu différent. Bon, je pense que déjà, on n'a que des concepts de service, donc l'emplacement est important, mais il est certainement peut-être moins important que dans du textile ou de la restauration.
Et en tout cas, moins important que l'équipe dont va s'entourer le franchisé.
Exactement. Quand je dis moins important, pour nous, l'emplacement est extrêmement important, mais on va s'adapter aussi à la ville ou aux franchisés. C'est-à-dire qu'on va avoir des profils de franchisés qui sont différents. Nous, 80% de nos clients ne viendront pas dans notre centre. C'est nous qui allons les chercher. On a besoin d'une visibilité, mais on n'a pas forcément besoin d'être sur des emplacements numéro 1 et qui sont chers. Donc, en fonction du profil du franchisé et de la ville, on va avoir parfois des emplacements qui vont être plutôt positionnés dans des centres-villes parce que le franchisé a plutôt un passé de gestionnaire, manager, commerçant, et donc ça nous intéresse de drainer aussi une partie de clientèle chez lui. Et on a également des franchisés qui ont un profil très commercial et qui préfèrent, et on les accompagne dans ce domaine-là, avec tout ce que ça comporte, aller sur des emplacements parfois un peu en extérieur de ville, un petit peu plus grand, parce qu'ils savent qu'ils vont aller chercher et développer le business. On a dans notre modèle un modèle un peu centre-ville, un modèle un peu plus extérieur, avec deux systèmes de développement un petit peu différents. Mais ça dépend avant tout du profil du franchisé.
Tanguy Marchand, en termes d'emplacement, où êtes-vous implanté, où sont implantées vos agences en général?
Alors, chez nous, le local, il est également primordial, dans le choix du local et de l'emplacement. C'est un vrai vecteur d'acquisition client. On a mesuré dans le réseau que c'était à peu près 15% de l'acquisition client grâce à la vitrine. Donc clairement, un élément de communication très important et un investissement, comme on disait tout à l'heure, et pas une charge. L'agence, pour nous, elle a également un vrai rôle d'un point de vue salarié, puisqu'on emploie beaucoup de personnes qui sont très généralement au domicile des familles, donc on voit peu. Et l'agence, pour nous, ça crée un vrai sentiment d'appartenance à la marque et à une entreprise dans laquelle elles se sentent bien, dans laquelle elles peuvent venir boire un café et discuter avec les encadrants. Donc pour nous, l'agence et le local, le choix d'emplacement, c'est primordial d'un point de vue vraiment client et salarié. Et après, on a un cahier des charges, bien entendu, qu'on donne aux franchisés avec des éléments à respecter dans le choix du local. En tout cas, on a nos critères d'implantation. Le franchisé fait ses recherches pour trouver le local idéal et ensuite nous on le valide avec lui sur place pour être sûr qu'on respecte au mieux le cahier des charges qu'on a fixé au départ.
Donc Rosemary Moins, vous l'évoquiez tout à l'heure, donc un contrat de franchise ce sont des droits et des devoirs. Quels sont les, en règle générale, lorsqu'on rejoint un réseau, donc on est obligé de suivre une politique d'enseigne, de suivre les directives d'un réseau, et à contrario, le franchiseur, quels sont ses devoirs envers le franchisé?
Alors, on fait la liste. il a des obligations qui sont de l'ordre, bon, bien entendu, il met à disposition l'enseigne, donc il donne le droit d'utiliser l'enseigne. Il est obligé de transférer son savoir-faire, donc tous ses process, ses méthodologies, ça fait partie. Il est obligé d'accompagner. Donc ça, c'est j'allais dire les trois obligations essentielles. L'accompagnement fait partie, je dirais, des gènes de la franchise. C'est pour ça qu'il est important pour vous de vérifier auprès du franchiseur comment il est structuré en interne. Combien de personnes sont là pour combien de franchisés, combien d'animateurs de réseau, combien de personnes dans les services support, enfin, qui est là pour répondre à vos questions. Parce que c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui est là en backup, en permanence, et qui, l'animateur n'aura peut-être pas réponse à tout, hein, c'est pas un superman, l'animateur, mais il doit être capable d'aller chercher l'information dans sa tête de réseau, dans les services support, pour vous amener une réponse. Donc ça fait partie des trois gènes fondamentaux et trois devoirs du franchiseur. Au-delà de ça, c'est aussi lui qui s'occupe de faire évoluer le concept. Le franchiseur, il a une stratégie long terme, et son long terme, c'est pas forcément votre long terme, et lui, il doit voir loin. Et on parlait du digital et du cross-canal. Lui, son job, c'est de ça. C'est de savoir où va être le réseau dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'il veut obtenir et de mettre en place les outils nécessaires que pour être toujours dans la course, dans 5 ans, donc il est dans l'anticipation. Comme toute entreprise, il faut qu'elle évolue, les réseaux évoluent, et donc le franchiseur est là pour ça. Bien entendu, et là je pense que les systèmes ont quand même, et les mentalités ont un peu évolué, ils ont besoin de vous les franchiseurs. Ils ont besoin des franchisés, des retours terrain, et ils vont aussi organiser cette circulation d'informations de manière plus ou moins différente en fonction des réseaux et de leur structure, mais pour aller chercher vos expériences et voir si avec celles-là, on peut faire évoluer, il est nécessaire de faire évoluer le concept et le savoir-faire. Donc on est très en interaction finalement avec les franchisés, et donc cette obligation d'innovation, d'évolution fait partie aussi des obligations du franchiseur, et c'est important de mesurer ça aussi et de vérifier ça auprès des gens que vous allez rencontrer.
Moi, je me souviens que j'avais bondi sur lors d'une conférence où les franchiseurs disaient, voilà, il y a le franchiseur, c'est la tête de réseau, hein, donc ouais. C'est lui qui a tout imaginé.
C'est lui la tête.
Et hein. C'est lui la tête. Voilà, c'était un peu la tête et les jambes. Ouais, donc, du coup, ça, ouais. Et c'était et les franchisés sont là pour appliquer.
Ouais.
Alors moi j'ai dit, ah ben non, moi si vous dites ça à mes franchisés, ils vont hurler. Hein. Parce qu'en fait, justement, comme ça vient d'être évoqué, il y a une vie quotidienne, et qui mieux qu'un franchisé sur le terrain va savoir quel est l'outil de demain qui va lui être utile. Donc en fait, un réseau qui évolue bien, c'est un réseau qui tient compte bien sûr des idées des franchiseurs, mais aussi et surtout de celles des franchisés. Et donc ce qu'il faut que vous veilliez, c'est qu'il ait bien mis en place des structures d'animation, donc avec des commissions de travail sur des thématiques auxquelles participent les franchisés. Moi, chez moi, il y a 4 commissions. Et c'est 4 fois par an. Donc moi, ça me fait voilà, ça fait 16 commissions sur lesquelles les franchisés. Il y en a une, c'est innovation. Donc c'est le style. Ce serait bien si on avait tel outil. Ce serait bien si on pouvait faire ça. Et si on trouve que ça a du sens, eh bien, on a des webmasters, développeurs qui vont développer l'outil en question. Ou alors, on va mettre en place, on va travailler cet aspect des choses pour aussi avoir cette réponse. Donc en fait, un réseau qui fonctionne bien. C'est un réseau où tout le monde a la parole, il n'y a pas d'idées bêtes, après on va voir quelles sont celles qui sortent du lot et on va les mettre intelligemment en place pour que ça profite dans le quotidien des franchisés. Parce que si les franchisés, le bonheur pour un franchiseur, c'est avoir des franchisés qui marchent. Donc si on met en place ensemble les choses qui font que ça marche encore mieux, on est tous gagnants.
Mm-hmm. Oui, mais le bonheur du franchisé, ce sera un franchiseur qui le bouscule tout le temps. On parlait d'innovation ici. C'est vrai qu'à un moment donné, quand votre agence, votre entreprise dans la franchise fonctionne, on a peut-être, à un moment donné, c'est normal, hein, un intérêt particulier à se dire ce que j'ai, ça me suffit. Et là, le franchiseur vous dira toujours non, parce que si on ne progresse pas, on recule et les autres, ils sont derrière nous. Et donc l'innovation, on parlait d'innovation, nous on met en place un outil pour suivre la satisfaction de nos clients et de nos EDM, oui, de nos intervenants, pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr, ça bouscule les habitudes des franchisés parce qu'ils vont devoir regarder le taux de satisfaction, mais c'est pour leur bien, c'est pour continuer le développement. Et donc ça doit faire partie du gène du franchiseur de vous bousculer. Ça doit faire partie du gène du franchiseur de vous bousculer, de vous titiller sur vos performances en interne, parce que de toute façon, il ne faut pas l'oublier, c'est le développement de votre patrimoine. Parce qu'à un moment donné, c'est bien, il y a la rentabilité immédiate, mais il faut aussi penser à l'avenir. Donc, développement du savoir-faire, toujours et encore, c'est hyper important de vérifier que le franchiseur a toujours des idées et à long terme.
Lionel Dinger, est-ce qu'on peut parler du document d'information précontractuelle? Parce qu'entrer dans une franchise, en effet, c'est se renseigner auprès d'autres franchisés, auprès de ses connaissances, mais il y a également un document écrit que la loi oblige à remettre aux franchisés. Alors, en quoi consiste-t-il? Que contient-il en résumé?
Alors, c'était plus une question pour Rosemary, normalement, mais je vais essayer d'y répondre.
J'écoute, attention.
Donc, le document de Dubin, de la loi Dubin, c'est un document que tout franchiseur doit remettre à un candidat franchisé. Afin de pouvoir étudier en toute connaissance de cause le concept. Moi, ce que j'explique à mes candidats, c'est que les informations qu'on va vous donner au moment du document Dubin, premièrement, c'est la responsabilité du franchiseur. C'est qu'au moment où il vous remet cette information, toute l'information qui est indiquée dans ce document est vraie au moment où elle est donnée, elle est transmise. Dans ce document, vous avez les informations sur le franchiseur, vous avez les comptes du franchiseur, vous avez les principaux dirigeants, vous avez la liste des magasins, vous avez la liste des centres qui ont été ouverts, fermés, résiliés, logiquement l'année précédente. Vous avez un état général du marché, donc sur votre secteur, sur le secteur d'activité, et vous avez un état local du marché. État local du marché, là, il y a souvent des discussions sur ce point-là. Pour moi, c'est très clair. C'est une photographie de votre marché et de votre zone où vous allez potentiellement implanter votre centre. Donc, des franchiseurs font cet état local seul ou utilisent des sociétés externes pour le réaliser. Donc, vous avez des informations comme des informations du type population, entreprise, en fonction effectivement de votre activité et de ce qui concerne votre activité, nombre d'entreprises, concurrence, qui sont les concurrents sur la zone. Dans notre cas, on a beaucoup de concurrents, entre guillemets, dans nos différents métiers, mais on n'a pas un concurrent direct, donc on a beaucoup de pages avec beaucoup de noms. On les positionne également sur une carte, ce qui permet éventuellement aux franchisés de visualiser aussi des endroits où il n'y aurait peut-être pas de concurrent. Je ne dis pas que c'est à cet endroit-là qu'il faut aller, c'est peut-être à l'endroit inverse, en fait. Vous avez le contrat de franchise standard, et pour notre part, on a le contrat de réservation standard qui est indiqué également dans le DIP.
C'est à peu près ça.
Sous couvert.
Je veux juste dire que vous trouverez le modèle de document d'information précontractuel sur le site de la FFF. Donc vous pouvez télécharger finalement les têtes de chapitre, en fait, toutes les informations que vous devez recevoir dans ce DIP. Et peut-être finir en disant qu'il faut qu'il soit remis, ça c'est la loi, 20 jours minimum avant la signature du contrat. J'insiste sur le minimum parce que la loi ne prévoit pas de maximum. Donc voilà, c'est 20 jours minimum, donc ça veut dire qu'entre la réception de ce document et la signature du contrat définitif, il doit se passer minimum 20 jours. Voilà.
Et juste pour rajouter une chose, il ne faut pas forcément s'étonner d'aller à un rendez-vous avec un franchiseur et de ne pas avoir de DIP tout de suite. Dans notre cas, on ne remet pas de DIP au premier rendez-vous, parce que pour nous, le premier rendez-vous, c'est d'abord d'essayer de comprendre si on a envie de travailler ensemble, si on a un objectif commun. Donc c'est vraiment une phase de découverte. Donc nous, on ne remet jamais de DIP, pour être clair, sur le premier rendez-vous. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je
vous donne si c'est bien. Enfin, à mon sens, c'est bien. Parce qu'en fait, pour moi, le moment où je remets un DIP, c'est que moi, je dis oui, je souhaite que tu sois franchisé de l'enseigne Temporis. C'est un vrai acte. Et quand quelqu'un me dit je vais démissionner, je dis non, ne démissionnez pas avant d'avoir fait votre parcours découverte et avant que je vous ai dit moi je suis d'accord. Parce qu'à partir du moment où je vous remets un DIP, ça veut dire que moi je suis d'accord. Donc c'est
très
important de
ne
pas remettre un. Et d'ailleurs, je dirais plutôt l'inverse. Méfiez-vous d'un franchiseur qui vous remet un DIP à la première rencontre.
Et c'est pas une plaquette commerciale, parce que j'ai déjà lu pas mal de DIP dans ma vie de franchise. Et parfois, on est surpris. Donc, ce n'est pas une plaquette commerciale. Ce n'est pas là pour vendre le concept. C'est pour vous expliquer ce que le franchiseur fait, son secteur d'activité, qui il est, et donner une photo de son réseau, de lui-même et de son réseau.
Et son nom l'indique. Document d'information pré-contractuelle. Absolument. Donc, ce n'est pas document commercial.
On confond.
Alors pour décoder le contrat de franchise, avant de le signer, que conseillez-vous aux candidats qui viennent parfois du salariat? Est-ce qu'on peut se faire accompagner, aider par des cabinets d'expertise comptable ou des groupements de franchiseurs? Enfin, je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus.
Le contrat de franchise, déjà, il faut le lire. Ouais. C'est important, il sera dans le DIP. Et
après, il faut le comprendre.
Il faut le comprendre. Il faut qu'il soit équilibré dans la relation franchiseur-franchisé. Donc, pas de perdant, pas de gagnant. Donc, il faut veiller à cet équilibre. Et
que des gagnants.
Comment ?
Que des gagnants.
Ouais, que des gagnants, mais surtout un contrat équilibré et surtout le faire lire par un avocat. C'est un conseil également qu'on donne, le faire vérifier pour bien saisir les subtilités qui auraient pu vous échapper.
D'accord. Alors, peut-être pas pour vos réseaux respectifs, mais en tout cas, de manière générale, c'est ce qu'on conseille en effet aux candidats, parce que pour des réseaux peut-être un peu moins connus ou qui ont moins financiers, oui, en effet. Ouais. En termes, alors, on en parlait, des écueils à éviter, quelles sont les choses vraiment à éviter lorsqu'on veut rejoindre un réseau de franchise, les choses vraiment que vous conseillez?
Les questions qu'on ne poserait pas?
Ouais, par exemple.
Non, mais c'est ça en fait. C'est qu'avant de signer le contrat, il faut que tout soit clair.
Ouais.
Vraiment. Et il n'y a pas de question qu'on ne doit pas poser à son franchiseur ou son futur franchiseur ou à des franchisés. Vraiment, l'écueil, c'est ne pas rencontrer de franchisés de la franchise qu'on s'apprête à rejoindre pour X années, qui vont, en fonction des activités, de 2, 5, 7, 9 ans. L'écueil serait là. Et après, c'est quand même... Moi, j'ai l'habitude de dire que créer son entreprise, il y a toute la famille avec vous derrière. Donc, même si c'est que vous qui êtes dedans, vous avez une vie qui change. Vous allez parler tout le temps de votre boîte. Vous rentrez chez vous. Moi, je dis toujours, au début, surtout, vous allez vivre Shiva tout le temps, hein, même en week-end, même en vacances, etc. Parce que c'est votre boîte. Vous la créez. Et donc, et vous avez aussi un salaire qui ne va peut-être pas être le même de quand vous étiez salarié, du moins au début, avec les premiers mois. Donc, c'est un projet de vie. Et votre famille doit être derrière vous. Donc, l'écueil serait ne pas s'être assez renseigné, ne pas avoir lu le contrat, par exemple, et ne pas avoir sa famille derrière, ou du moins un accord, c'est important.
D'accord. Est-ce que vous avez justement des franchisés qui travaillent en famille au sein de vos réseaux ?
Oui.
En couple ?
Oui.
Oui.
Ça marche bien.
Possible, ouais, ça fonctionne bien.
Et aussi, ce serait choisir une franchise pour de mauvaises raisons. C'est l'écueil. Enfin, voilà, par exemple, de se dire je ne vise que la rentabilité. Moi, je me souviens d'un candidat qui m'avait dit « Laurence, qu'est-ce qui ferait que je ne réussisse pas ?» Et je lui ai répondu que vous vous mentiez à vous-même, qu'au vu des résultats de la franchise, vous disiez « c'est fait pour moi ». Et ben, c'est quand même assez bizarre, hein, parce que bon, le franchiseur qui vous dira que la vie est un long fleuve tranquille et que chez lui, il n'y a jamais eu de problème, voilà, il ne faut pas le croire non plus. Donc en fait, moi, ce franchisé-là, au bout d'un certain temps, il m'a dit « Laurent, je suis dans ma voiture et je n'arrive pas à sortir ». Parce que j'ai une boule au ventre. Je lui ai dit, Bruno, là, c'est le seul truc que je ne peux pas faire pour vous. Moi, je peux faire plein de choses en amont, vous aider. Je l'ai accompagné davantage en animation, mais à un moment donné, c'est qu'il s'était menti à lui-même. Et c'était vraiment, c'était bizarre parce que c'est celui qui m'a posé la question qui s'est menti à lui-même. Et bon, on s'est organisé, on a repris, on a revendu. Mais voilà, il s'en est sorti, on va dire, très bien, puisqu'il est à peu près ressorti comme il est rentré, ce qui est quand même pas mal pour quelqu'un qui s'est trompé. Hein. Donc ça, c'est aussi important de voir comment, en cas de difficulté, vous pouvez être accompagné aussi par votre franchiseur. Parce qu'un franchiseur qui vous dira que tout s'est toujours bien passé depuis 20 ans dans son réseau et que voilà, et qu'il n'y a jamais eu de difficulté, bon, c'est pareil, c'est comment il gère les difficultés.
Oui, c'est exactement ça. C'est comment gérer les difficultés et aussi penser à plus tard, quand à un moment donné vous voudrez prendre peut-être votre retraite ou faire autre chose, qu'a prévu le franchiseur, est-ce que là aussi il peut vous accompagner? C'est important tout ça.
Moi je suis d'accord avec ça, je pense qu'il est important de ne pas se tromper et de ne pas se mentir, surtout dans un secteur de service aux entreprises ou aux particuliers. Le franchisé est vraiment au cœur du système, donc il a un rôle clé. Donc on n'attend pas des clients qui rentrent dans nos centres, ça en fait partie, mais il faut aller chercher le client. Donc là, il faut être très sûr de sa capacité à le faire. Nous, on dit, on n'a pas besoin forcément d'avoir cette compétence au départ, on forme les franchisés. Par contre, il faut être sûr qu'on ait envie de le faire. Si on n'est pas sûr, là, on a une vraie difficulté. L'autre point... Moi, j'aime bien que les franchisés, les candidats, aillent voir plusieurs franchisés, mais à la limite, j'aime bien aussi que quand ils arrivent chez nous, ils aient vu aussi plusieurs franchiseurs. Donc, je pense que ça, c'est important parce que ça vous permet également de comparer, de voir différents types de métiers, de comprendre et de pouvoir analyser ce qu'est un franchiseur et ce que peut être un autre franchiseur. Parce que parfois, vous allez en voir un, vous êtes dit, c'est pour moi, j'ai compris le fonctionnement et le concept. Mais je pense qu'il est important de benchmarker un petit peu et d'aller rencontrer 2-3 franchiseurs. Et très sincèrement, je préfère avoir des franchisés ou des candidats qui viennent à moi en ayant déjà vu des franchiseurs. Je préfère pas être le premier. Ça, c'est clair.
Je vous remercie tous. Il reste à peu près une dizaine de minutes, 5-10 minutes. Je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. Oui, il y en a déjà une de nos franchiseurs.
Oui, bonjour. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut... envisager la participation du franchisé aux décisions stratégiques du modèle du franchiseur, un peu comme peuvent le faire des groupements d'achat comme Intermarché ou autres, qui vont impliquer certains franchisés dans l'orientation de l'offre, une vision plus long-termiste de ce à quoi doit ressembler leur métier. Et est-ce propre à certains métiers dans la franchise, plus à certains plutôt que d'autres ou pas?
Pour qu'un réseau fonctionne et aille tous ensemble, on l'a dit, il faut bien sûr que toutes les remontées d'expérience soient là, mais quand même, le franchiseur doit rester le seul décisionnaire, parce qu'autrement, il n'y a plus de décisions qui sont prises. En revanche, bien évidemment, enfin, nous, dans notre cas, on associe les franchisés à la présentation de la stratégie de l'entreprise sur un an, deux ans, trois ans, voire jusqu'à cinq ans, afin de déterminer les axes de travail. Et on fait part aussi de nos conclusions quand on regarde ce qui se passe autour de nous et pas que dans notre métier des services à la personne. Et on leur fait part des axes sur lesquels on doit se développer. On les informe, on les met avec nous, mais le décideur doit toujours être le franchiseur. Autrement, ça ne fonctionne pas.
Alors, oui, vous parliez de stratégie. Donc, en fait, on n'est pas sur les outils. On est quand même sur quelque chose d'assez fort. Donc, en fait, la façon dont on peut faire participer les franchisés sur cette partie stratégique, c'est, par exemple, des ateliers en convention sur comment voyez-vous Temporis 2020. Donc, du coup, chacun va phosphorer et forcément, dans la stratégie du franchiseur, il va y avoir des éléments qui vont être repris par rapport à la réflexion des franchisés. Après, vous avez aussi, moi j'ai mis en place sur mon réseau, un comité de suggestion. Le comité de suggestion, c'est 4 ou 5 franchisés, de confiance, vraiment, des personnes soit qui ont renouvelé leur contrat, soit qui sont vraiment des franchisés qui ont compris l'intérêt du collectif et qui sont capables de donner du temps pour faire évoluer le réseau. Et là, on peut travailler ensemble sur cette partie stratégique, c'est-à-dire en leur disant, voilà, nous, on pense ça dans ce domaine. On aimerait avoir votre avis de franchisé. Et c'est aussi le comité de suggestion. Donc, c'est des personnes qui vont être autant capables de comprendre qu'il faut que l'intérêt des deux soit préservé pour qu'on avance correctement ensemble. Ça peut être sur un point. Moi, j'ai fait aussi participer à des points contractuels. Donc, on est quand même dans de la stratégie. Et on va dire que ça dépend de la façon dont est constitué le réseau et aussi des personnes avec lesquelles on peut faire ça. Parce que ça demande quand même d'avoir un niveau de maturité dans la franchise et de la compréhension de la franchise et d'une franchise qui marche pour qu'on puisse associer des gens à ces réflexions-là. Mais je trouve ça tout à fait intéressant aussi dans la dimension stratégique.
Si je peux juste rajouter un point. Je pense qu'il est important aussi, et c'est une bonne question que vous posez, mais je pense que c'est une question aussi à se poser avant d'intégrer un réseau de franchise, peut-être, c'est quel type d'entreprise vous voulez créer. Parce que intégrer un réseau de franchise, c'est aussi se fondre malgré tout dans un modèle. Donc je pense que ça, c'est un des écueils, si on revient à la question d'avant, qu'il faut se poser. Est-ce que je suis fait pour la franchise ? Ou est-ce que ma volonté, c'est de créer quelque chose, d'apporter ma contribution tout le temps? Et je pense que ça, c'est une vraie question au démarrage. Là, on va créer une franchise, mais je pense que la question, elle se pose déjà avant. Je veux créer, oui, en reprise, en franchise ou tout seul. Une fois que vous avez déjà répondu à cette question-là, et que vous savez que c'est la franchise, bien entendu, après, je pense qu'on est tous d'accord sur la capacité à intervenir, à écouter le franchisé, à mettre en place des commissions. Mais je pense que c'est la vraie question, elle est un petit peu avant, à mon avis.
Oui, il faut pas se dire, en fait, j'achète. En fait, une franchise, c'est quoi? C'est réussir plus vite et mieux que si on est seul. Donc, c'est la réédition d'un succès, la franchise. Donc, si on se met en franchise pour vouloir refaire le concept à sa façon, il ne faut pas être en franchise. Voilà. Il y a d'abord, en fait, j'applique les recettes qui font que ça marche. Je grandis dans le réseau, je peux progresser, je peux avoir plusieurs unités. Et effectivement, je peux aussi participer aux réflexions stratégiques. Enfin, faut pas,
c'est,
voilà, c'est dans ce sens-là que ça
c'est
se passe.
C'est pas décider, c'est participer. Nous, on a un comité qui s'appelle le comité stratégique, c'est pas pour rien, où il y a 6 franchisés avec nous qui travaillons. Le CODIR de Shiva est 6 à 7 franchisés, mais c'est un comité stratégique. Donc la décision appartiendra toujours aux franchiseurs. Donc c'est vraiment important de souligner que si on est foncièrement indépendant, il ne faut pas venir peut-être à la franchise.
Là, normalement, vous avez... pardon, Rodolphe. Là, normalement, vous avez, il y a des tests. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait passer des tests à nos candidats et on va voir quelles sont les personnes qui sont plus des individualistes que des personnes qui veulent être en réseau. Et en fait, moi, clairement, je n'ai pas envie d'intégrer des personnes. S'ils veulent être seuls, il ne faut pas qu'ils viennent chercher le savoir-faire d'un franchiseur. Il faut qu'ils créent leur propre société, parce que sinon, ils seront frustrés tout le temps. Donc, ils ne se seront pas des franchisés agréables. Donc, moi, je préfère avoir des franchisés agréables.
J'allais dire, oui, c'est d'autant plus important de bien choisir que un contrat dure en moyenne 5-7 ans. Donc, en effet, il faut se préparer pendant ces 5 ou 7 années à respecter les règles de part et d'autre. Y a-t-il d'autres questions sur d'autres sujets ?
Alors, j'ai lu récemment dans les Échos une évolution, alors je ne sais pas si c'est de la réglementation ou de la jurisprudence concernant justement les contrats de franchise qui, avec des risques de requalification en contrat d'adhésion et en contrat de négociation. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet ?
Alors, Rosemary, peut-être sur...
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a toujours... Il y a la sacro-sainte, je dirais, règle de... c'est pas une règle, mais enfin le danger de l'immixtion dans la gestion de l'entreprise du franchisé. Donc effectivement, on est bien sur un système de partenariat entre deux entreprises, le franchiseur qui gère son entreprise et le franchisé qui gère lui-même son entreprise. Donc avec des sociétés qui sont juridiquement complètement différentes, sans lien l'une avec l'autre, ce qui est différent d'Intermarché, comme vous le citez, où là on est dans un système coopératif et associatif, où le système de gouvernance est complètement différent, ce qui amène les adhérents à pouvoir décider de la stratégie. Donc ici, on est sur des systèmes, enfin sur des entreprises séparées. Donc il n'est pas possible pour le franchiseur, ou en tout cas dangereux pour le franchiseur, de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise du franchisé. Et parfois, il y a des pratiques et des faisceaux d'indices qui fait que on peut en arriver à juger que le franchisé n'est pas complètement indépendant et qu'il y a finalement quelque part un lien de subordination entre le franchisé et le franchiseur qui ramènerait le contrat à un contrat de salarié ou de salariat et plus à un contrat un contrat de droit commercial entre deux indépendants. Et dans ces cas-là, effectivement, le juge peut aller jusqu'à la requalification de contrat. Peut-être en agent commercial parce que les éléments amènent à cette conclusion-là, ou un contrat de salarié, c'est quand même, rare.
Ça, c'est pas, c'était le cas de France Acheminement.
Oui, mais voilà. c'est très ancien. Très vieux.
C'est pour ça que j'allais dire que c'est pas forcément nouveau débat.
Oui, mais voilà. Et donc, il peut y avoir eu des jugements de jurisprudence. On a eu tout un débat avec la commission affiliation et le prêt-à-porter et l'arrêt. Chatawak, puisqu'il s'agissait de l'enseigne Chatawak. Donc ça revient sur le tapis régulièrement. Mais les franchiseurs, je pense que vous êtes d'accord avec moi, sont très vigilants pour ne pas imposer un expert comptable, pour ne pas recruter à la place du franchisé, pour ne pas déterminer les salaires des employés du franchisé, etc.
Mais il donnera des conseils.
Mais il peut donner des conseils, bien sûr. Il peut faire des recommandations, mais il ne peut pas imposer.